Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Julien Sokol, team manager de l'équipe professionnelle de l'Olympique Lyonnais. Avec lui, nous avons abordé les contours de son métier et son rôle de facilitateur de l'ombre. De ses relations avec le staff technique à celles avec les joueurs, nous nous penchons sur son quotidien. Nous avons également évoqué toute la logistique liée à l'équipe professionnelle dont il a la charge. Transport, hôtel, réservations diverses avec les exemples en Coupe d'Europe, lors des stages de pré-saison à l'étranger, ou lors des déplacements en France. Voilà pour le résumé. Il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Julien Sokol. Bonjour Julien Sokol et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Oui, bonjour à vous, bonjour à tout le monde.
Alors, dans ce podcast, on commence toujours par la même question, Julien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué par son scénario, par son résultat, par même une émotion que vous avez pu ressentir ? Comme acteur, spectateur, téléspectateur, étant enfant, adolescent, adulte, peu importe, le principal à retenir de ça, c'est que c'est votre Madeleine de Proust, votre meilleur souvenir footballistique.
Moi, j'ai pas eu la chance d'être professionnel, donc j'ai pas de grands souvenirs à raconter et ça reste que des souvenirs de joueurs amateurs que je garderai pour moi parce que c'est des petites choses, mais je pense que comme toute personne qui travaille dans le monde du football, que ce soit amateur, semi-professionnel ou professionnel, on a tous des souvenirs de matchs qu'on a vus, que ça soit au stade ou à la télé, et qui nous ont marqué, qui nous ont donné envie aussi de travailler dans cette branche professionnelle. Moi, j'ai deux gros souvenirs, un à la télé et un dans un stade de foot. Le premier, c'est en 82, un petit peu, je pense, comme toutes les personnes de la génération qui sont nées dans les années 70. Le match France-Allemagne à Séville en 82. Voilà, j'avais 8 ans à l'époque. Je me souviens d'un match, j'étais en vacances, comme beaucoup d'entre nous. Et voilà, on était une centaine de personnes dans un camping dans le sud-ouest de la France à regarder ce match-là. Et voilà, pour moi, c'était un petit peu ce qui résume le football, à savoir des joies immenses et puis des déceptions aussi quasi immédiates, puisque voilà, le scénario du match fait que les Français pouvaient accéder à la finale de la Coupe du Monde. Malheureusement, ça ne s'est pas fait avec des changements au score, des choses qui se sont produites aussi dans le match, des incidents, des erreurs de joueurs, des erreurs aussi d'arbitrage. C'est vraiment le match que j'ai encore en mémoire, qui m'a choqué positivement et négativement. J'ai comme gros souvenir également, j'ai ce match à Munich, qui est la finale de la Coupe des clubs champions ou de la Ligue des champions, je ne me souviens plus comment ça se dit. À l'époque, je pense que c'était la Ligue des champions encore. En 97, j'ai eu la chance de pouvoir voir cette finale entre la Juventus de Turin et le Borussia Dortmund. Il y avait quand même Zidane, il y avait Deschamps qui jouaient avec la Juve. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. La Juventus était ultra favorite. Malheureusement, ils jouaient à Munich et voilà, il y avait énormément de spectateurs allemands. Je ne connaissais pas encore forcément énormément les supporters de Dortmund, mais ce jour-là, ils ont fait quand même quelque chose de fantastique, avec des joueurs aussi qui ont réussi à gagner cette finale. Je me souviens aussi de l'entrée, je me souviens plus du joueur allemand qui rentre et qui marque un but quasiment du milieu de terrain.
C'était Lars Ricken, ouais, sur le superbe
Lars
love.
Ricken, ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça m'avait vraiment donné des émotions exceptionnelles. J'étais étudiant à l'UFR Staff de Lyon. On était parti, on avait monté ce projet avec les étudiants comme projet final de stage de l'année. Et voilà, c'était une période importante de ma vie, de début d'adulte. C'est aussi certainement aussi des éléments qui ont fait que ça m'a donné aussi envie un jour de pouvoir côtoyer ou tutoyer le très haut niveau. Quoi.
Alors déjà, juste pour revenir sur le France-Allemagne de Séville, je crois que c'est le match qu'on m'a le plus cité. Dans ce podcast, ce qui est assez fou, c'est que même, alors évidemment c'est une question de génération, mais même des personnes qui sont nées plus tard que le match et qui l'ont revu ensuite, on garde un souvenir assez marquant, peut-être parce qu'il y a aussi une filiation de père en fils avec des allusions récurrentes à ce match-là qui a marqué toute une génération. Mais c'est vrai que ce match-là est beaucoup cité. Et puis le Dortmund Juve, j'en ai aussi des souvenirs. Moi, je devais avoir 11 ans à l'époque. C'est vrai que la Juve était incroyablement forte avec à chaque poste quasiment parmi les meilleurs joueurs. Il y avait Boxich, il y avait Viri, il y avait Paolo Montero, Ferrara, etc. Et c'est vrai que la surprise Dortmund, entre guillemets, parce que c'était moins suivi aussi en France, le championnat allemand par rapport au championnat italien. Et ce but de Ricken est, je pense, parmi les plus beaux buts dans une finale de Ligue des Champions. Ce lob spontané face à un gardien aussi célèbre que Peroudi. C'est ces deux grands souvenirs effectivement de foot et qui me parlent à moi, même si en 82 j'avais 4 ans. Mais on en a tellement parlé, même dans ce podcast du coup, que j'ai presque l'impression de l'avoir vécu comme vous tous.
Bah, disons que ce match-là, c'est vrai que vous citez quand même des sacrés joueurs côté Italie. Hein. Il y avait Peruzzi, Zidane, devant Vieri, Boxich, Deschamps. Après, quand je regarde quand même l'équipe de Dortmund, pour moi, elle était vraiment l'outsider complet. Mais bon, il y avait Matthias Sammer quand même dans le capitaine. Il y avait Ricken qui a fait une petite carrière quand même. Hein. Le gars, il rentre à la 70e et c'est quasiment son premier ballon. Il met un lob et il fait tourner le match. Voilà, Andreas Möller qui est
un super numéro 10.
Le Souza, donc il y avait des joueurs. Mais moi, au stade olympique de Munich, avec tout ce que ça représente, avec tout ce qu'on a fait les deux jours avant et après, visiter aussi quand même des choses de la Seconde Guerre mondiale, etc., avec cette apothéose de finale. Voilà, je pense que c'est un tout qui fait que pour moi, c'était un déclencheur. J'aurais pu parler de la finale de 98, puisque j'ai eu la chance d'être à la finale. J'aurais pu parler aussi d'autres matchs, mais pour moi, voilà, c'est deux déclencheurs, c'est France-Allemagne 82 et ce match-là, parce que c'est deux matchs qui m'ont marqué dans ma prime jeunesse, parce que ça m'a donné envie de jouer au football à 8 ans. Et le deuxième, parce que ça m'a donné envie certainement de pouvoir continuer dans cette voie-là et de pouvoir vivre ma passion en faisant un métier de fou. Quoi.
Alors Julien, on va commencer par parler de votre parcours. Vous avez été successivement entraîneur de seniors, éducateur sur des équipes de jeunes, conseiller technique du district du Rhône, recruteur à l'Olympique Lyonnais pour le centre de formation, coordinateur sportif, et vous êtes désormais team manager de l'équipe professionnelle de l'OL. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit clairement, j'ai affaire à un touche-à-tout. Comment s'est construit ce parcours? Et est-ce que vous avez saisi des opportunités comme ça, un petit peu au vol, comme elles arrivaient? Ou est-ce qu'il faut voir un cheminement logique dans votre parcours?
Bon, déjà, vous êtes bien renseigné. Bravo pour votre travail en amont. Je vais vous répondre de la manière la plus simple possible. C'est que j'ai commencé à passer mon premier diplôme, qui était le jeune animateur technique, en 90. En fait, je jouais dans un club qui s'appelle l'ASK Tigny. C'est un club qui est à côté de Dijon, dans l'est dijonnais, qui était un club bien sous tout rapport. Mon père était président à l'époque et j'avais un ou deux copains. On adorait le foot et on a eu la chance aussi d'avoir un responsable technique du club qui venait d'arriver, qui était prof de PS, Michel Pruneau, qui est peut-être la personne qui m'a, bon, après ma famille bien sûr, mais qui m'a donné envie aussi de transmettre. Donc j'ai commencé à passer ce premier diplôme pour m'occuper des tout petits dans mon club. Parce que je pense qu'à un moment, quand on est dans un club amateur, on s'y sent bien, on a aussi envie de redonner un petit peu. Et puis, ça s'est construit comme ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai planifié tout ce que j'allais faire dans ma première partie de vie. Ce n'a été que des opportunités, à savoir que du jour au lendemain, j'ai décidé de passer mon premier petit diplôme d'éducateur, en tout cas d'animateur. Et puis, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit que j'avais quelques qualités. Je me suis occupé de gamins et puis petit à petit, on s'occupe des débutants, des poussins, des pupilles, des moins de 13, des moins de 15. Je suis parti faire ma vie étudiante à Lyon et quasiment tout de suite, j'ai envoyé des CV pour m'occuper de gamins dans un club et j'ai été accueilli au FC Lyon, qui est un club historique français, puisqu'il doit être dans les 5-6 plus anciens clubs de France. Voilà, et là, j'ai continué à m'occuper de gamins. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec différentes catégories, puisque pendant les 10 premières années en tant qu'éducateur, j'ai entraîné toutes les catégories, que ce soit des tout petits jusqu'aux adultes. J'ai eu la chance de travailler aussi avec des sourds et muets, avec des jeunes en difficulté sur le projet que la ville de Lyon avait mis en place à l'époque, l'année avant la Coupe du Monde. Voilà, il n'y a que des féminines que je n'ai pas coachées en club. C'était des expériences à chaque fois différentes et intéressantes et enrichissantes. Donc ça, c'est mon premier parcours sur mes 10 premières années d'éducateur. Et puis après, il y a eu une opportunité d'être embauché au FC Lyon. J'étais le premier salarié du club, puisque à l'époque, dans les années 97-98, il y avait ce qu'on appelait les emplois jeunes, qui a énormément aidé les structures amateurs, que ce soit les différents clubs, pas que football hein, d'ailleurs. Et voilà, j'ai fait partie aussi de ce dispositif qui m'a permis d'être embauché, de travailler à temps plein dans un club, d'essayer de structurer un petit peu, bien sûr au niveau sportif, mais également aussi au niveau administratif, un club qui à l'époque était composé de 350-400 licenciés. Il en fait à peu près 1200 cette année. J'ai été rattrapé parce que je pense que je suis un des derniers à avoir fait le service militaire. J'ai dû quitter mon emploi et puis en revenant après mon service militaire, j'ai eu la chance de pouvoir entraîner des seniors à l'AS Saint-Priest puisque le coach Farid Bensiti venait de partir pour aller entraîner l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. On était en octobre-novembre et il cherchait quelqu'un. Donc, je suis arrivé en vol pour m'occuper des seniors. Donc, je faisais mes entraînements avec mon équipe 3 en district. Mais surtout, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer Bernard David, directeur du centre de formation de la GOCR et qui était coach à l'AS Saint-Priest à cette époque-là. Voilà, donc ça m'a donné envie de continuer. Puis une opportunité s'est aussi présentée au district du Rhône de football qui recrutait deux personnes à temps plein pour travailler sur la formation, l'accompagnement des éducateurs et des clubs dans les différents secteurs. Voilà, donc c'était Jean-Claude Gentini qui à l'époque était conseiller technique qui s'occupe de l'Olympique de Marseille au niveau de la formation, qui a été pendant très longtemps à la direction technique nationale. Il était entraîneur de sélection. Voilà. Donc j'ai appris aussi avec lui. J'ai passé 10 ans au district du Rhône. Ça m'a permis aussi de passer mon deuxième degré d'entraîneur, ce qu'on appelait avant le DEF, ce qui correspond au DES maintenant. 10 ans au district du Rhône de formation, d'accompagnement des clubs, de structuration. La chance aussi d'être dans un super département et de côtoyer aussi en sélection des super joueurs, hein, génération 86 à 97. Donc voilà, quand vous avez à 13-14 ans des gamins comme Benzema, Loïc Rémy, vous commencez. C'est quand même top.
C'est plaisant.
Voilà, c'est plaisant. Et puis, voilà, après, il y a des cycles. On m'a toujours dit que dans la vie professionnelle, il y avait des cycles. Voilà, moi, je sais que mon cycle, c'est 10 ans. J'avais envie de voir autre chose. Je commençais, il y avait beaucoup de réformes dans la formation. On avait été un peu précurseur dans la Ligue Rhône-Alpes sur ce domaine-là. J'avais envie de faire autre chose. Et puis, j'étais ami avec Gérard Bonneau, qui était le responsable du recrutement des jeunes au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Et puis, c'est arrivé comme ça. On se voit, on se croise. Lui, il est en bas. Moi, je suis à la fenêtre du bureau. Je lui dis, tiens, je m'en vais, je vais postuler ailleurs. Il me dit, non, non, tu viens à l'OL. 2 jours après, j'ai eu un rendez-vous et voilà, il m'a pris à la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais pour travailler en tant que responsable sur la région Rhône-Alpes, puisque on se côtoyait, il savait que j'avais quand même un réseau important sur la région. Et lui aussi avait envie de passer sur des projets différents sur le recrutement au niveau de l'Olympique Lyonnais. Il m'a fait confiance, il m'a permis surtout d'arriver à l'Olympique Lyonnais. Donc là, j'ai fait 7 ans sur le recrutement. Et puis après, j'ai basculé sur d'autres missions, comme vous l'avez dit, auprès de Jean-François Vullier, que je connaissais depuis la faculté, qui a été également conseiller technique en Haute-Savoie. Donc voilà, ça faisait quand même une quinzaine d'années qu'on travaillait ensemble. Et il avait besoin aussi, lui, en tant que directeur de l'académie de l'époque, d'avoir quelqu'un aussi pour le seconder sur la coordination administrative et la gestion sportive pour qu'ils puissent se concentrer sur le management des staffs et des équipes sur le projet qui était lié aussi au projet de l'Olympique Lyonnais. Et puis, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un an, j'ai pris la suite de Guy Genet, manager, coordinateur sportif historique du groupe professionnel. Je suis arrivé en octobre 2020. On continue de travailler ensemble. Il m'a fait une passation de poste, mais surtout aussi une transmission d'expérience qu'on continue, puisqu'on continue à travailler ensemble. Pour résumer, c'est des opportunités qui ont été rencontrées au fil de ma vie, au fil de ma carrière, que j'aurais jamais imaginé, hein, je ne vous le cache pas. Éducateur, formateur, recruteur, coordinateur administratif, team manager à l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit, mais à aucun moment je m'étais donné cet objectif il y a 20 ans, quoi, 25 ans.
Mais c'est bien parce que dans ce podcast, j'ai souvent eu des personnes qui... on construit ça aussi par opportunité, qui ne se voyait pas ou qui l'espérait, mais qui n'imaginait pas arriver à tel ou tel niveau de performance, mais de poste dans des clubs professionnels. Et c'est bien de montrer que, en fait, il n'y a pas de chemin particulier ou de chemin très précis à suivre, qu'on peut partir d'un endroit du secteur amateur pour arriver dans les professionnels. On peut partir il y a des exemples de recruteurs qui travaillaient avec des agents qui sont maintenant recruteurs dans des clubs professionnels. On a des analystes vidéo qui sont devenus responsables de cellules de recrutement. Enfin, on a plein de chemins différents qui nous ouvrent ensuite les voies, si on est un petit peu curieux, si on est compétent surtout, qui nous ouvrent pas mal de portes au final. Donc votre profil aussi montre ça à ceux qui nous écoutent, que aujourd'hui vous êtes peut-être à ce niveau-là en train de faire telle chose, mais peut-être que dans 20 ans ou 25 ans, vous serez à un autre niveau, dans un poste que vous n'imaginiez même pas et dans lequel vous prendrez pas mal de plaisir en fait.
À titre personnel, je pars du principe que quand on choisit ou on décide de prendre une mission qui nous a été proposée, c'est pour déjà faire au minima ce qui existe déjà et essayer aussi d'apporter quelques améliorations, quelques éléments qui vont aussi faire progresser la structure et essayer aussi de prendre du plaisir. Et quand on a un petit peu moins de plaisir et qu'il y a un petit peu plus de moins que de plus, il faut changer, hein, parce qu'on n'a qu'une vie et puis qu'on a la chance aussi de travailler dans un domaine fantastique. Mais c'est surtout ça aussi qui me guide. C'est des opportunités parce que vous avez la chance de vous voir confier par des personnes que vous estimez des missions ou des postes. Vous prenez parce que vous... Voilà, il faut aussi se dire qu'on n'a peut-être pas aussi une deuxième chance de pouvoir avoir ce poste-là. Donc, il faut vite se poser, vite appréhender un petit peu les différentes missions qu'on vous propose. Vite aussi faire le lien avec sa famille pour savoir si on est tous OK pour partir sur ce projet-là. Parce que là, on parle de moi, mais derrière, j'ai aussi mon épouse et mes deux enfants. C'est très chronophage. Il faut aussi à un moment bien expliquer aux membres de sa famille comment ça va se passer ou comment ça peut se passer, de manière à ce qu'on soit tous OK et que dans 6 mois, on ne soit pas obligé de se poser pour dire bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est du plaisir, c'est aussi une organisation familiale à avoir. Et ce que je dis, parce que y a aussi des jeunes étudiants qui nous contactent pour voir un petit peu quel est notre parcours, quelles sont les études. Mais ce que je leur dis, c'est je suis désolé, mais moi, mes études, elles sont tout le temps, quoi. C'est ma vie, c'est mon quotidien, parce que j'étais un joueur très moyen. J'ai été un étudiant très moyen. Par contre, voilà, quand j'ai eu des opportunités professionnelles sur des missions, ben, je les ai faites. Et qu'à un moment ou un autre, si on bosse bien ou pas trop mal, on a la possibilité aussi d'évoluer. Et c'est ça aussi qui est très encourageant, c'est qu'il n'y a pas que le CV de départ. Je pense que l'Olympique Lyonnais est quand même un club aussi qui fait beaucoup confiance aux personnes qui sont là depuis longtemps et qui aiment le club et qui donnent aussi beaucoup, puisque voilà, on parlait au niveau du recrutement, au niveau des analyses vidéo, au niveau du médical, des kinés, des intendants, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps, qui sont issus de la ville de Lyon ou de la périphérie, ou qui ont été éducateurs, ou qui ont été aussi des joueurs au centre de formation. Et il y a aussi cette volonté d'apporter à ces personnes-là une évolution dans le club. Et ça, c'est bien. Et voilà, je pars du principe qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre les gens dans des cases et en disant bah, « voilà, je vais faire ça comme étude pour devenir ça ». Je pense qu'il y a la connexion, il y a le réseau, il y a l'expérience, il y a être capable de toucher à tout, vous l'avez dit. Mais il dit, vous êtes un touche-à-tout, bah, c'est oui et non, quoi. On a un peu le couteau suisse, quoi. Mais je pars du principe que soit on est très très bon dans son domaine et là on est un champion, ou soit on essaye d'être plutôt pas trop mal dans beaucoup de domaines et là on a plusieurs cartes avec soi et ça peut être intéressant aussi. Et mon métier aujourd'hui fait qu'en 10 minutes, je suis capable de passer de dossiers totalement différents. Quoi.
Alors justement, en introduction de votre métier de team manager, est-ce qu'on peut tenter une définition simple, ce ne sera peut-être pas si simple, de votre rôle qui explique que, selon les dires de nombreux acteurs dans un club, c'est un poste très important. Je me suis documenté pour cet épisode, comme à chaque fois, et je suis tombé par exemple sur une expression utilisée par la section paloise, donc le club de rugby de Pau, qui présente son team manager comme le facilitateur de l'ombre. Est-ce que ça vous va comme définition ?
Oui, c'est une définition en fait qui résume les choses, c'est-à-dire qu'on est là pour lubrifier l'appareil, le système. Le système, c'est le club, la structure, et dans l'ombre, parce que bah, souvent, on ne nous voit pas. On fait les choses sur différents domaines. On m'a souvent dit que si on voyait trop, c'est que ça n'allait pas. Donc voilà, ça peut résumer les choses. Moi, je pars du principe que notre poste, on est à la frontière en fait d'un poste de manager et d'un chef de service, parce que en fait, on est manager de soi-même et on est chef de service de soi-même. Notre objectif, c'est de participer au développement de la structure, c'est de maintenir les règles de fonctionnement qui sont déterminées par la direction, par le staff technique, et puis c'est de créer du processus. Au quotidien, en fait, on va être amené à faire des choses qui vont faire évoluer ou qui vont faire vivre la structure. Par contre, je pars du principe qu'on soit dans un club comme l'Olympique Lyonnais ou comme un club de national, parce que je croise de plus en plus de team managers maintenant dans les clubs de national, je pars du principe qu'on a tous le même métier. Après, la structure va faire que quand on est 600 salariés, ça peut être plus facile ou plus difficile que quand on est dans une structure avec 20 salariés. Après, nous, on est un peu le relais entre la direction, le staff, les joueurs. Donc voilà, on est un peu un appareil du système A3, hein, au centre de tout ça, ou à la périphérie de tout ça. Ça va dépendre d'où on se place. Moi, je pars du principe qu'un team manager, c'est un petit peu tout ça. Nous, on ne fera jamais gagner l'équipe. Par contre, de temps en temps, on peut la faire perdre parce qu'on a eu une erreur sur une feuille de match, parce que le déplacement ne s'est pas bien passé ou parce que voilà, y a des choses qui ont fait que ça peut créer aussi des perturbations dans la performance de l'équipe. Mais nous, en tout cas, on ne fera jamais gagner une équipe, au contraire d'un joueur, d'une équipe ou d'un coach qui fera les modifications qui permettront de gagner. Voilà.
On va y revenir, mais peut-être quand même que vous avez quelque part une influence sur le résultat final. On y reviendra dans quelques minutes, mais vous êtes, vous l'avez dit, au contact de la direction sportive, des joueurs et du staff technique notamment. Si on parle de votre relation avec le staff technique, quel est votre périmètre d'intervention avec eux, auprès d'eux, la mise en place, je pense à la mise en place de l'agenda en jour de match, à domicile comme à l'extérieur, peut-être des besoins particuliers du staff. Quels sont vos échanges et vos relations avec le staff technique ? Après, on détaillera aussi avec la direction, avec les joueurs. On va essayer de vraiment faire le tour du métier de team manager.
Alors, Concernant mes relations avec le staff, c'est très simple. Je participe à toutes les réunions du matin avec le staff technique. Donc, avant l'arrivée des joueurs, il y a une réunion pour la journée. Là, bah, je donne les informations qui me concernent. Donc, peuvent être liées à des éléments qui vont être importants dans l'organisation de la journée. Je donne les informations aussi qui vont impacter à un moment ou à un autre les sollicitations du staff ou des joueurs. Je prépare également aussi tous les déplacements, que ce soit en championnat et en Coupe d'Europe. Donc, il faut avoir une bonne connexion avec le coach ou ses adjoints par rapport aux doléances. Et après, il y a une grande autonomie aussi dans notre travail, puisque bah, chacun son boulot. Et puis, quand on a la chance aussi d'avoir des coachs qui font confiance aux gens et qui se concentrent sur la priorité de leur travail, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Et après, il faut que je sois aussi à l'écoute de tout le staff qui a aussi des besoins, qui a des demandes, qui a des interrogations. Essayer de faciliter aussi pour qu'eux, ils puissent être focus 100% sur leur priorité. Voilà, donc c'est pas être au service. Mais voilà, je suis là aussi pour faciliter des choses qui pourraient mettre des petits grains de sable aussi dans le fonctionnement, pour essayer d'anticiper des choses et des besoins qui font que bah, voilà, le staff technique ne peut et ne doit se concentrer que sur la mission de faire progresser l'équipe, d'avoir une très bonne gestion aussi des joueurs de l'équipe pour être performant sur le terrain et pas avoir à s'occuper d'éléments parasites, entre guillemets, qui pourraient aussi faire perdre du temps, créer aussi du désordre dans le système. Voilà, au niveau du staff, après, il faut rester à sa place. Hein. J'ai la chance aussi de pouvoir avoir accès à tout ce qui se passe, à savoir les séances d'entraînement, les séances vidéo, les causeries. Et ça, c'est bien quand on est aussi passionné et qu'on a été aussi éducateur formateur, de pouvoir aussi continuer à voir ce qui se passe au très haut niveau. Et ça, c'est très, très intéressant.
C'est de la post-formation quasiment, quand on est avec des staffs techniques. Vous parliez tout à l'heure des études, etc., de continuer à se former, de continuer à étudier, de lire, d'écouter, de regarder, etc. Là, pour le coup, quand on a une âme aussi d'éducateur, effectivement, d'être au contact d'entraîneurs expérimentés qui ont parfois aussi des visions très différentes de celles qu'on a pu développer tout au long de notre parcours. Avec en plus là la spécificité de l'arrivée de l'entraîneur actuel qui est un entraîneur étranger, donc forcément avec lui une formation, qu'elle soit éducative, qu'elle soit universitaire, qu'elle soit ensuite professionnelle, bah, différente de ce que nous on a en France, ça c'est évidemment enrichissant, clairement enrichissant pour vous, j'imagine.
Oui, c'est enrichissant parce que j'ai eu la chance dans mon modeste parcours de pouvoir côtoyer aussi des gens de grande valeur. Je les ai pour la plupart cités en amont. Après, j'ai eu la chance de travailler avec Rudy Garcia l'année dernière. J'ai eu la chance de travailler avec un nouveau coach hollandais et son staff. Moi, je suis curieux, donc j'écoute aussi. J'ai la chance aussi, quand le temps et mon travail me le permettent, de pouvoir aller voir les séances d'entraînement, de pouvoir participer aussi aux différentes interventions du staff sur les trois derniers jours de préparation du match. Donc voilà, j'apprends aussi individuellement sur des points de détail du très haut niveau. J'ai aussi la chance d'avoir un directeur sportif qui était un grand champion, Juninho, avec qui aussi c'est assez facile de parler football. Donc c'est vrai que bah, moi, je suis aussi encore en formation continue. Donc ça c'est cool, hein, formation continue avec des joueurs de très haut niveau, puisqu'on a moitié des joueurs qui sont internationaux. De pouvoir aussi côtoyer des grands entraîneurs, des grands staffs, pouvoir échanger aussi sur le vécu et sur avec un petit peu de recul aussi, puisqu'il faut aussi prendre du recul et puis, comme j'ai déjà dit, rester à sa place, mais voilà, observer aussi les séances d'entraînement, pourquoi ils font ça, les points de détail sur les organisations offensives, défensives, comment on déclenche le pressing, les coups de pied arrêtés, tous ces éléments aussi, les stratégies qui vont être mises en place. Ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension aussi de notre équipe, et puis puisqu'on est partie intégrante, hein, on fait partie aussi d'un staff élargi, on est une vingtaine de personnes. Et ça te permet aussi de pouvoir avancer et d'avoir une meilleure compréhension, je pense, des choses, quoi.
L'idée n'étant pas de les comparer, mais du coup, vous avez connu Rudy Garcia et donc là, vous apprenez à connaître Peter Bosch. Évidemment que votre travail dépend aussi, pour cette partie-là, hein, de la personnalité de l'entraîneur et de son staff, de manière générale. Est-ce que vous avez noté des sensibilités différentes, par exemple, dans les besoins de ces deux entraîneurs-là et en quoi des spécificités assez différentes vont influer aussi sur votre travail, sur vos tâches, sur vos missions au quotidien.
Les spécificités, il n'y en a pas vraiment de différentes. En fait, c'est des...
Peut-être plus une sensibilité, alors ?
Oui, c'est des sensibilités. Quand on est latin, on a plus de sensibilité sur des paramètres qui sont spécifiques. Quand on est moins latin, c'est différent. Après, il n'y a pas de différence dans le sens où, après, chaque personne évidemment est différente, chaque éducateur et entraîneur évidemment est différent. Il faut être bon dans ce qu'on fait, il faut dégrossir de manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis et qu'on arrive le jour du match pour pouvoir jouer un grand match et que tous les petits cailloux et tous les grains de sable qui pourraient avoir lieu sont évacués et sont gérés par des personnes, que ce soit un team manager, que ce soit des intendants, que ce soit un ou une nutritionniste, des kinés, etc. Donc voilà, ça fait partie aussi d'un staff. Après, le management, les différences et en fonction aussi des caractères et de l'expérience et la philosophie aussi des uns et des autres. À nous aussi de vite comprendre aussi comment fonctionne le coach et ses adjoints de manière à pouvoir aussi répondre très vite en fait à leurs besoins. Je ne veux pas rentrer dans les
Bien
détails entre tel et tel, qui fait quoi, comment ça se passe. Mais voilà, on apprend avec tout le monde et je pense que notre rôle, nous, c'est de continuer à être performant dans notre domaine tout en ayant une très bonne connaissance des attentes du staff. Et ça, c'est important de pouvoir aussi très rapidement savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas et après d'aller au plus précis dans notre mission.
Un autre aspect important de votre mission, justement, trouve racine auprès des joueurs cette fois-ci. Je vous propose qu'on s'arrête d'abord sur un cas spécifique. C'est le cas du joueur qui arrive à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, qui vient d'être recruté. On sait que l'intégration et l'adaptation d'un joueur dans son nouvel environnement, dans son nouveau club, dans sa nouvelle ville, dans son nouveau pays, d'ailleurs si c'est un joueur étranger, vont avoir des répercussions importantes sur ses performances. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure, vous avez quand même une influence importante sur le résultat final, parce que quand vous êtes au contact des nouvelles recrues, faciliter leur adaptation, etc., c'est aussi avoir une influence sur les performances du joueur et donc quelque part aussi sur l'influence de l'équipe. On doit peut-être d'ailleurs, si on évoque le cas de joueur, il y a aussi sans doute une différence pour vous dans votre mission et dans vos tâches. S'il s'agit d'un joueur qui arrive d'un club français, qui est déjà en France, et le cas d'un joueur étranger venant d'un autre pays, puisque j'imagine déjà que rien que sur le plan des démarches, etc., c'est plus complexe dans le deuxième cas.
L'organisation à l'Olympique Lyonnais fait qu'il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le joueur s'engage à l'Olympique Lyonnais, il a été en relation avec notre directeur sportif, là c'est le recrutement, notre directeur du football, les services juridiques forcément. Ensuite, une fois que le joueur signe et arrive à l'Olympique Lyonnais, il est pris en charge dans un premier temps par Giannino et par un membre de la cellule recrutement qui les accueille à l'aéroport. Et dans un deuxième temps, vous avez une personne hyper importante qui est Isabelle Diaz, qui est chargée de l'accueil et de l'accompagnement des joueurs et des familles, qui est là depuis de nombreuses années et qui gère parfaitement l'accueil du joueur, mais également de sa famille, que ça soit au niveau des affinités, que ça soit au niveau du relationnel, que ça soit au niveau aussi des démarches administratives, même si on a des services dédiés à ça, mais c'est elle qui va tout coordonner, qui va tout prendre en charge. Parce que, comme vous l'avez dit, du jour au lendemain, on peut traverser l'Atlantique, la Méditerranée ou la frontière pour arriver dans un pays, inscrire les enfants à l'école, faire les démarches bancaires, faire les démarches, trouver un appartement, une maison, etc. Donc, c'est elle qui va tout chapeauter. Nous, on est là à partir du moment où le joueur franchit la porte du centre d'entraînement. Voilà, moi, je tiens absolument à être présent quand le joueur va visiter le centre d'entraînement. On est aussi son contact privilégié, c'est-à-dire que c'est à nous de nous montrer le vestiaire. C'est à nous aussi, avec le responsable des intendants, Jérôme Renaud, de pouvoir lui expliquer le fonctionnement au quotidien. C'est des choses bêtes, hein, mais voilà, comment se passe l'intendance, comment se passe la cantine, comment ça se passe les soins, donc là, avec le docteur, avec le responsable des kinés, les détails finalement du quotidien à l'Olympique Lyonnais. La différence entre le joueur français et le joueur étranger, sincèrement, un nouveau joueur est un nouveau joueur, donc il faut considérer un joueur français et un joueur étranger de la même manière, même si il y a deux éléments importants, c'est la barrière de la langue et aussi c'est d'où le joueur vient. Parce que peut-être que le fonctionnement du quotidien et même la façon de vivre n'est pas la même quand on arrive du Brésil ou quand on arrive d'Afrique ou quand on arrive d'Europe du Nord. Bah peut-être que quand on arrive dans une ville comme Lyon, c'est pas simple. Voilà, donc ça, Isabelle maîtrise parfaitement et nous, on est là pour l'aider, à savoir que voilà, il a notre contact le premier jour. S'il a besoin de quoi que ce soit, il peut nous envoyer un message, il peut nous appeler. Ça peut être avoir envie de faire un restaurant, ça peut être avoir des questions. Nous, on est là aussi dès le premier jour, dès son arrivée, pour pouvoir aussi l'accompagner, lui donner tous les éléments de réponse aux questions. Voilà, et ça peut durer 15 jours, comme ça peut durer des mois ou des années. Il y a des joueurs qui arrivent à être très vite autonomes et d'autres qui ont besoin justement de garder ce contact avec 2-3 personnes du club, parce que pour eux, c'est important aussi d'avoir des relais de fonctionnement en lien avec l'aspect sportif, mais également aussi avec l'aspect personnel.
Alors, avant de faire cette émission, j'ai aussi lu des témoignages dans d'autres pays de team managers. Il y en a certains qui se définissent presque comme des nounous des joueurs, c'est-à-dire qu'ils les aident énormément sur beaucoup de choses, à la fois dans la vie au club, mais aussi dans la vie quotidienne. Et du coup, je me posais une question toute simple. C'est tout à l'heure, le titre, c'était un facilitateur de l'ombre. Donc faciliter quelque part, si on prend juste l'exemple du joueur, faciliter la vie d'un joueur pour qu'il se concentre sur le terrain et qu'il n'ait pas d'éléments perturbateurs autour et qu'il soit vraiment focus sur sa mission première qui est celle de faire performer l'équipe. Mais comment faire en sorte de ne pas arriver à un point où il y a un risque de déresponsabiliser ces mêmes joueurs qui, finalement, une fois leur carrière terminée, bah, vont devoir se confronter à une certaine réalité bien différente pour la plupart. Alors, je ne parle pas des stars, évidemment, qui, même après leur carrière, sont à un autre niveau, mais ils vont arriver à un moment de leur carrière, le post-carrière, où ils vont devoir faire et non plus ils vont demander qu'on leur fasse certaines choses. Donc, comment réussir ce juste dosage entre être là pour leur faciliter la vie, mais en même temps, bah, réussir quand même à les responsabiliser et surtout pas tomber dans une déresponsabilisation au quotidien?
Non, je ne pense pas que les joueurs soient déresponsabilisés. En tout cas, avec la petite expérience que j'ai dans mon club, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, en tout cas ce que vous pouvez...
C'est plus qu'une affirmation, c'était une question, c'était une interrogation.
Non, oui, moi, mon rôle, il est, au niveau de mes missions, elle est très simple. C'est essayer que tout se passe bien pour que les joueurs, quand ils arrivent à l'Olympique Lyonnais, soient performants à l'entraînement et en match, que le staff technique puisse être focus sur ses priorités. Après, les joueurs de foot, ce sont des adultes très responsables qui sont bien organisés. Voilà, donc il n'y a pas de notion de nounou ou de quoi que ce soit. Ça reste dans le domaine quand même professionnel, à savoir qu'on est là pour pouvoir permettre d'accélérer certaines choses dans le processus et pour faciliter effectivement la vie d'un joueur professionnel. Et on n'est pas là non plus pour l'assister au quotidien. Nous, on a des joueurs à l'Olympique Lyonnais, en tout cas, qui sont très autonomes, qui savent gérer leur vie aussi et qui n'ont pas de demandes particulières qui nous permettraient aussi de basculer dans un côté d'assistana. En tout cas, je n'ai pas le sentiment et je n'ai pas l'impression de faire ça. Donc, voilà, moi, j'ai quand même... la chance d'avoir affaire à des champions. Comme je vous le disais, il y a plus de la moitié qui sont internationaux. Le reste, c'est quand même des jeunes ou des joueurs qui ont de l'expérience. Voilà, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense qu'eux ne se permettraient pas aussi de franchir aussi cette frontière-là et inversement.
Ouais, d'abuser en fait. Voilà.
Non, il y a pas. Quand il y a des jours de repos, il y a ces repos aussi. Dans les communications qu'on peut avoir, parce que voilà, eux, c'est important aussi qu'ils aient pas de messages de leur team manager pour leur envoyer des informations. Par contre, ils savent que s'il y a un problème, on est là. Ils savent que s'il y a des besoins particuliers, on est là. Mais ça reste quand même dans un domaine qui est lié à notre travail. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Et le fonctionnement, le process, les règles mis en place aussi par la structure, mais et également aussi par le staff, et l'expérience des joueurs, et aussi, on va dire, le charisme des joueurs qui sont recrutés à l'Olympique Lyonnais font qu'à un moment ou un autre, on est tous autonomes, chacun de notre côté, et qu'après, dans le domaine de la performance, oui, on doit aussi pouvoir les accompagner dans certains domaines, mais pour qu'ils soient performants sur le terrain et pas pour qu'ils puissent vivre, parce que vivre, ils savent faire et je n'ai pas de sujet là-dessus.
Est-ce que, deux petites questions encore sur le côté joueur, quels sont du coup les besoins ou les domaines sur lesquels un team manager intervient auprès des joueurs? Quels sont les... Si on reste évidemment sur le côté sportif, quels sont votre rayon d'action auprès des joueurs? Quelles peuvent être leurs demandes, l'aide qu'ils peuvent solliciter ou non au quotidien, ou même de manière beaucoup plus ponctuelle hein, d'ailleurs?
Après, moi, c'est en lien aussi avec ce que j'ai à faire avec eux, à savoir que moi, j'ai une partie qui est liée à la direction, à savoir que je suis une des clés d'entrée de l'équipe professionnelle sur tout ce qui est en lien avec les directions. Hein. Ça peut être des ressources humaines, du juridique, du marketing, du sponsoring, des services généraux sur la gestion de la flotte automobile, les relations, les obligations avec les sponsors. Donc tout ça, c'est une organisation en amont que je fais avec un ou deux référents du club. Et ensuite, moi, je le propose au coach et ou au directeur sportif. Et ensuite, on met en place avec les joueurs. Donc ça, c'est le volet en lien avec la direction. Il y a le volet aussi en lien avec le quotidien et l'équipe pour la performance et pour les matchs de championnat, de Coupe d'Europe. Donc c'est tout ce qu'on doit préparer pour que ça se passe bien. Après, avec les joueurs, j'ai dans la fonction qui est occupée pour un team manager, mais ça peut varier aussi. On en parle malheureusement pas assez avec les homologues parce que on s'appelle de temps en temps, mais on se voit jour de match, ça dure 5 minutes pour faire la feuille de match et souvent 5 minutes après le match. Je pense qu'à un moment, il y aurait peut-être quelque chose à faire aussi au niveau des instances pour créer peut-être, pas une formation, mais un groupe de travail sur notre métier. Mais ça peut, voilà, moi, je peux être aussi amené à commander, gérer, centraliser les besoins de place de match pour un joueur, pour les matchs et à domicile, mais aussi à l'extérieur. Ça peut être aussi dans l'aide apportée sur des problématiques qui pourraient être liées à la famille. Mais voilà, nous, notre rôle, c'est donner les informations qui émanent de la direction ou du staff technique, hors sportif, hors performance terrain, et aussi être à l'écoute des besoins des joueurs par rapport à des problématiques d'agenda, de logistique. On est dans une période FIFA, concrètement, c'est s'assurer aussi qu'on ait bien toutes les informations des sélections nationales dans les temps impartis par les règlements de la FIFA. C'est savoir aussi à quel moment ils vont rentrer, comment ils vont rentrer, de manière à ce que derrière, bon, on puisse aussi préparer nos matchs dans les meilleures conditions. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on a la moitié des joueurs qui sont à l'entraînement et l'autre moitié qui sont dans leur sélection nationale. Donc, il faut aussi garder le lien avec tout ça, garder le lien aussi avec tous les joueurs et prendre des nouvelles, ne serait-ce que ça, quoi. Un petit message à un joueur qui est à 800, 1000, 10 000 kilomètres, savoir comment ça se passe et peut-être de temps en temps aussi avoir un petit peu plus de temps aussi pour des joueurs blessés, pour des joueurs qui pourraient avoir des difficultés, pour leur montrer qu'on est là et que s'ils ont besoin de nous, on peut aussi aller les aider, les accompagner. C'est un peu réducteur, hein, mais c'est difficile de pouvoir tout expliquer.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais par exemple, si on revient sur... vous avez cité tout à l'heure le sponsoring, toutes les activités de sponsoring, vous avez parlé de la flotte automobile, etc. C'est par exemple, il y a sans citer nom, mais imaginons un sponsor de l'Olympique Lyonnais qui a dealé une journée de représentation... pour, je sais pas moi, pour faire des photos pour cette marque-là, pour tourner un clip de 3 minutes, j'en sais rien, peu importe, bah, il faut prévoir que le joueur, le 27 janvier, il va être absent le matin parce que il y a représentation auprès du sporting à faire, du sponsor, pardon, à faire. C'est ce genre de choses-là qu'il faut aussi prévoir et organiser.
Pour anticiper justement ce genre de problème, qui n'en est pas un, puisqu'à un moment ou à un autre... Un sponsor, c'est quelqu'un qui va donner de l'argent à la structure pour avoir de l'image. Cet argent va aussi resservir à la structure pour pouvoir faire des investissements ou pour pouvoir aussi payer ses salariés, dont font partie les joueurs. L'idée, finalement, c'est d'être pas trop mal organisé en amont, de pouvoir avoir que peu de personnes qui gèrent le dispositif. Donc, moi, je suis la personne en lien avec l'équipe professionnelle et on a aussi essayé de définir deux personnes qui sont en lien avec les différents partenaires de l'Olympique Lyonnais, partenaires internes ou externes. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi très tôt dans la saison connaître les besoins obligatoires et contractuels, pouvoir aussi échanger avec l'entraîneur. Et puis ensuite, en fonction du calendrier qu'on a, de pouvoir trouver les journées les moins chargées pour organiser ce genre de sollicitation. Alors, moi, j'ai connu une année Covid où finalement, les sollicitations, il n'y en avait pas parce que Covid. Cette année, ça repart de manière importante et c'est tant mieux. Voilà, donc le calendrier, il est simple. Il y a le calendrier sportif, il y a le calendrier d'entraînement, il y a le calendrier des jours de repos. Et à partir de ça, on va pouvoir aussi construire à côté ou en parallèle des sollicitations. On a mis en place des mi-journées banalisées dans l'année qui permettent aussi de pouvoir mutualiser énormément de sollicitations et qui permettent aussi, avec l'outil qu'on a au Groupama Stadium, de pouvoir organiser des sponsor days plusieurs fois dans l'année qui vont mobiliser nos joueurs sur 3 heures, mais au moins qui vont être pendant 3 heures sollicités avec nos différents besoins contractuels. Donc ça, c'est intéressant. Et après, c'est la discussion au quotidien par rapport à des besoins spécifiques, urgents, sur un match, voilà, il y a tel partenaire qui vient, voilà, il faut qu'on fasse ça, etc. Et essayer de trouver aussi des éléments qui vont nous permettre de pouvoir respecter les engagements du club, mais également aussi de pouvoir respecter la performance de l'équipe, mais aussi du joueur. Donc voilà, c'est beaucoup de discussions. Il faut bien s'entendre aussi avec les gens. Je pense qu'il faut également donner tous les éléments en amont, avant la saison, pour que ça soit clair, de manière à ce que ça se passe bien. Et après, c'est des échanges aussi avec les joueurs, mais c'est quand on peut organiser ça assez longtemps à l'avance, ça permet aussi de ne pas prendre les joueurs au dépourvu, parce que voilà, ce sont des joueurs de foot, mais ce sont aussi pour la plupart des chefs de famille, ils ont aussi des activités à côté, donc il faut aussi respecter ça. Pour respecter ça, il faut aussi pouvoir échanger avec eux, les prévenir en amont, pour pouvoir leur expliquer pourquoi, comment, combien de temps, comment ça va se passer, et voilà, essayer de banaliser, mais quand on joue tous les 3 jours, c'est compliqué, hein, je ne vous le cache pas.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'imagine. Dernière petite question, est-ce que votre... On sait que l'Olympique Lyonnais, c'est un club formateur où il y a beaucoup de passerelles entre les équipes de jeunes et l'équipe première. Est-ce que votre passé, du coup, à l'académie de l'OL, comme recruteur, comme coordinateur, vous aide aujourd'hui lorsqu'un jeune du centre de formation débarque et fait ses premiers pas en équipe première pour évidemment lui... Alors j'imagine qu'ils sont sensibilisés avant, mais vraiment lui réexpliquer peut-être qu'il y a des codes différents. Alors évidemment sans se substituer à l'entraîneur et au staff technique ou même à la cellule sportive. Votre travail préalable à l'académie, est-ce que ça vous aide quand il faut parler aux joueurs, lui présenter les choses, bien l'encadrer, bien tout lui expliquer pour que le passage de l'académie au groupe professionnel se fasse de manière très lisse, en fait, très douce et très calme.
Quand on a un joueur de l'académie qui arrive en équipe première, soit pour des entraînements, soit dans le vestiaire, soit en début de saison, etc., il ne faut pas oublier qu'en amont, il a été briefé par le directeur du centre de formation, Jean-François Bullier, par les entraîneurs de l'équipe réserve, Guéda Fofana, Jérémy Brechet. Après, effectivement, quand on le sait en amont, on le voit. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, d'avoir 5-10 minutes avec lui pour, comme vous le disiez, lui donner des éléments sur les horaires, sur la tenue. Avec Jérôme Renaud, responsable des intendants, donner aussi les petits éléments de fonctionnement, lui dire où est-ce qu'il doit se mettre, dans le vestiaire, dans le bus, à l'hôtel. C'est des petits codes, effectivement, qui vont lui permettre déjà d'être plus intégré, en tout cas mieux intégré, d'être moins perturbé par des choses qui ne pourraient ne pas avoir lieu d'être, de manière à ce qu'il puisse se concentrer dans ce qu'on va lui demander au niveau sportif. Donc effectivement, le fait d'être de l'académie, d'avoir passé une dizaine d'années, de connaître tous les jeunes joueurs qui intègrent l'équipe professionnelle, bah pour moi, c'est un avantage parce que la relation, elle est déjà faite, parce qu'il y a une confiance aussi avec eux. On a un rôle d'accompagnateur, pas de grand frère parce que c'est pas l'idée, mais voilà, on est là aussi pour pouvoir leur donner quelques éléments qui vont les aider. Après, il faut aussi rester dans un cadre uniquement extra-terrain, mais voilà, je pense que c'est apprécié aussi des jeunes d'avoir aussi une ou deux personnes relais sur lesquelles peuvent s'appuyer, ils savent que s'ils ont des questions, s'ils ont des petits soucis, ils peuvent venir nous voir et qu'il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de... ça va rester entre nous et ça permettra aussi de pouvoir mettre au mieux dans le vestiaire, sur le terrain. Donc oui, forcément, c'est un avantage.
Alors on s'éloigne du vestiaire, du staff technique, des joueurs. Une autre part importante de votre travail concerne la logistique. Tout à l'heure, vous parliez des déplacements en Coupe d'Europe. Évidemment, quand on évolue dans un club comme l'Olympique Lyonnais, bah, la Coupe d'Europe, c'est chaque année. Pour que les auditeurs se rendent bien compte de cette tâche, qu'est-ce qui rentre dans l'organisation d'un match à l'extérieur pour vous ? Alors, évidemment, j'imagine le moyen de transport, l'hébergement, le matériel qui est transporté. Est-ce qu'il y a d'autres choses clés pour vous que vous devez organiser, checker, rechecker pour pas qu'il y ait d'oubli, d'erreur, etc.
En fait, il y a trois éléments. Il y a le stage d'avant-saison, le championnat et la Coupe de France et la Coupe d'Europe. C'est trois choses différentes. Le stage de pré-saison, quand il est fait à l'étranger, ben, il faut qu'il soit validé. Ma deuxième ou ma troisième réunion préparait le stage de juillet 2022. C'est-à-dire que je suis déjà en train de travailler avec notre responsable international, Clément Michon, sur le stage de juillet 2022.
Donc ça se fait, on est 10 mois avant quasiment, enfin 9 mois avant.
On a les dates, maintenant on est en train de travailler sur les lieux. Va découler aussi les matchs amicaux. Donc là, bah, c'est 10 mois en avance, c'est-à-dire que là, en janvier ou en février, je vais aller visiter les possibles sites pour le mois de juillet. Une fois qu'on a trouvé le site, eh ben on va pouvoir aussi construire le calendrier du nombre de matchs qui est décidé par l'entraîneur et son staff technique. Donc, quand on est sur un stage à l'étranger, ben, il faut aller voir une ou deux fois. Pour moi, c'est impératif d'aller voir parce que ça va permettre aussi de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire là-bas. Ensuite, il faut lister tout ce qu'on a besoin au niveau logistique, donc matériel. Et il faut organiser le vol privé. Et ensuite, il faut savoir comment on va acheminer le matériel. L'année dernière, nous avons été en Espagne une semaine, 3 tonnes de matériel.
C'est pas une petite valise.
Est-ce qu'on prend notre bus ? Est-ce qu'on prend pas notre bus ? Puisqu'on a la chance aussi à l'Olympique Lyonnais d'avoir un bus personnalisé qui nous suit partout en Europe. Voilà, se trouver les adversaires aussi. Il faut gagner du temps aussi dans les déplacements, gagner aussi en efficacité dans les structures d'hébergement. C'est effectivement ne rien nous oublier. Donc, bien identifier tous les besoins de tous les secteurs. Analyse vidéo, intendance médicale, sportive, évidemment. Nutritionniste, tous les besoins pour qu'on puisse tout avoir sur place. À l'étranger, donc, il y a là aussi la barrière du fonctionnement différent dans certains pays, la langue qui est différente. Donc, sur ce volet international de début de saison ou de pré-saison, donc, c'est le secteur international qui gère ça. Donc, moi, je vais valider le site une fois qu'au niveau de la direction, tous les éléments sont possibles et validés. Ensuite, il y a le championnat et la Coupe de France où là, bah, finalement, c'est du quotidien. Nous, chez nous, c'est assez simple. C'est qu'on a un contrat avec une compagnie aérienne qui nous permet d'avoir des vols privés à l'année avec le même avion. On décide finalement quel jour on veut partir, quel jour on veut rentrer, à quelle heure on veut décoller, à quelle heure on veut rentrer. Ça, c'est formidable. Quand on joue à 21h à l'extérieur, en règle générale, on part vers 10h, 11h le matin. En France, on a la chance de faire des vols entre 25 et 1h, enfin, 35 minutes plutôt et 1h15. Voilà, la semaine dernière, à Rennes, par exemple, on a mis 1h05 de vol. On arrive vers midi 10, midi et demi dans les hôtels. Donc, il faut effectivement bien checker, bien gérer les bus, les avions, les hôtels. Il faut gérer aussi en lien avec la sécurité, les escortes de police. Est-ce qu'il y a une escorte de police à l'aéroport? Est-ce qu'on a l'arrivée au tarmac? Est-ce qu'on a des passages comme monsieur et madame tout le monde? Ou est-ce qu'on a des avantages parce qu'on peut arriver directement sur le tarmac et rentrer dans le bus? Voilà, il faut aussi prévoir le retour. Donc moi, les jours de match, souvent à la mi-temps ou après la mi-temps, j'appelle l'aéroport, j'appelle le pilote pour savoir si on peut décoller, s'il n'y a pas de problème. Parce que si on ne peut pas décoller, il faut appeler à 23h l'hôtel pour reprendre des chambres d'hôtel pour 50. Voilà, s'assurer qu'il y a bien un bus à l'arrivée qui vient nous chercher à l'aéroport pour rentrer au centre d'entraînement. Voilà, ça, c'est le championnat de la Coupe de France. Et pour les déplacements en Coupe d'Europe, j'ai une expérience cette année, c'est que quand le tirage il est fin août et que vous jouez le 14 septembre au Royaume-Uni avec la sortie de l'Union européenne, et les visas, sincèrement, c'est très, très complexe. Donc, voilà, on a l'Europa League cette année. On a 3 matchs à l'extérieur. On le sait le 30 août. Donc, quand c'est comme ça, on a une agence de voyage, où elle voyage, hein, avec 3 personnes notamment qui sont là depuis de nombreuses années et qui ont l'habitude, donc qui dépoussièrent le travail, qui vont nous faire des propositions d'hôtel. Ensuite, je pars 2 ou 3 jours. En règle générale, c'est 2 jours avec soit le directeur, soit son adjoint pour aller visiter 4 ou 5 hôtels en 2 jours, aller visiter l'aéroport, aller visiter le stade, faire un compte-rendu sur tous les lieux qu'on va rencontrer et ensuite choisir l'hôtel qui va nous convenir.
Ça peut être, je me permets de vous couper, Julien, l'observation et le rapport que vous faites, ça peut être aussi la distance hôtel-stade, etc.
Tout. Le rapport, il fait une 20aine de pages. Tous les éléments de l'hôtel sont photographiés, étudiés, expliqués. Les aéroports, même chose. On rencontre le directeur de l'aéroport ou de la sécurité pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on peut faire passer, etc. etc. Au stade, c'est la même chose. On visite le stade, on visite tous les accès pour pouvoir faire un compte-rendu à nos intendants, à notre chef de sécurité, aux responsables d'accompagnement des supporters. Même chose pour les VIP. Le calcul des trajets, il est fait 1 à 2 fois quand on y est. Donc là, mon dernier voyage à Copenhague, parce qu'on va aller jouer à Brøndby. On est parti le lundi à 6h du matin. On rentre le mardi à 23h. On a visité 5 hôtels, dont 2 fois un hôtel, puisqu'on avait envie de revoir des choses. On a été visiter le stade, on a rencontré le responsable du stade, Stadium Manager, qui nous a fait tout visiter, on a pris des photos. À l'aéroport, on a rencontré le directeur de l'aéroport pour essayer de trouver des solutions d'accès un petit peu plus rapides et sécurisées pour nos joueurs. Et on rentre, et après, soit on fait un rapport à l'entraîneur, ou soit on prend des décisions, parce qu'on sait aussi les habitudes, on sait ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et ça, en 5-6 jours, avec des impacts de financiers qui sont quand même très importants. Et à côté de ça, il faut aussi s'assurer qu'on ait un avion privé suffisamment grand pour la récupération des joueurs, parce que quand on a 2h30 de vol, il faut aussi s'assurer qu'il y ait un catering à l'intérieur, donc il y a des repas, et aussi qu'on puisse avoir un avion qui décolle à l'heure où on veut et qui rentre à l'heure où on veut, savoir si on reste 2 ou 3 jours là-bas. Voilà, donc en règle générale, j'essaye d'aller 1 mois et demi à 2 mois avant le match, visiter et valider. Après, quand on joue tous les 3 jours, il faut trouver des jours pour y aller, puisque là, on est sur une trêve internationale, mais on a pas mal de travail. Mais voilà, on essaye souvent, par exemple, le lendemain d'un match, on joue le samedi ou le dimanche soir, on part le lundi jusqu'au mardi, parce qu'on sait qu'il y a soit le lundi, soit le mardi qui est off avec les joueurs, et que ça nous permet aussi de pouvoir partir le moins loin du match, en fait. Donc, voilà, quand on joue le vendredi, je peux partir lundi, mardi, ce qui me permet aussi d'avoir 3 jours pour préparer le match. Mais voilà, c'est le quotidien, et c'est très bien, parce que si on voyage, ça veut dire qu'on est qualifié. Donc là, par exemple, pour le 8e de finale de l'Europa League en mars, nous, on sait qu'on va jouer le 10 mars à l'extérieur. Le tirage au sort va être fait le 25 février, puisque le 16e de finale d'Europa League aura lieu le 24. Tirage au sort le 25. Et moi, je sais que le lundi 28 et le mardi 1er mars, je suis à l'étranger pour aller visiter et choisir un hôtel 9 jours après.
Voilà, là le désavantage, c'est toujours après le tirage au sort, parce que là, vous ne pouvez pas visiter un mois et demi avant. Là, pour le coup, vous avez généralement 15 jours, 3 semaines pour tout organiser.
Là, les problématiques pour la Coupe d'Europe, c'est le premier match après le tirage au sort du mois d'août, quand on joue à l'extérieur. Nous, on a joué aux Rangers à Glasgow, donc 16 jours après. Donc, j'y suis allé, je crois, le 2 et le 3.
D'accord.
Puisque c'était la période internationale, il y avait Ukraine-France, on y était le 2 et 3 septembre. Après, on a du temps, donc soit on fait 3 voyages de 2 jours, soit on fait un voyage de 6 jours et on fait tout. J'en ai discuté avec mes collègues qui font l'Europa League ou la Ligue des Champions cette année. Voilà, quand on peut faire 5 jours, c'est bien. Par contre, des fois, on se mélange un peu tout, donc c'est bien aussi de faire 2 jours. Et effectivement, quand il y a 2 pays côte à côte, on essaie de mutualiser aussi le déplacement. Donc ce premier match, il est très compliqué. Et puis après, en fonction, quand on se qualifie, qu'il y a le tirage le vendredi et qu'on joue 15 jours après, là, il faut être réactif, à savoir que moi, je sais déjà que si on a le bonheur d'être en quart de finale, je sais que le lundi 21 et le 22 mars, je serai avec mon collègue dans le voyage en déplacement pour aller choisir un hôtel, voir le stade et voir toutes les modalités d'accès qui me permettent après de proposer un programme sur 3 jours au staff technique qui valide ou qui modifie sur tous les horaires et toute l'organisation. Par exemple, pour Bromby, là, lundi, on a validé les 3 jours de déplacement avec les horaires qui sont fixés parce qu'on a tous les éléments.
Alors, juste pour donner une idée de temporalité, parce que je ne sais pas encore quand le podcast sortira, mais du coup, on enregistre, on est le 10 novembre, donc lundi, on était le 8. Et le match à Brøndby, je suis en train de vérifier sur le calendrier, est le 25.
25.
Ouais, d'accord. Donc ça fait de 15 jours avant, quoi. Voilà.
Bon, après là, je suis tranquille. Hein. Le match, nous, c'est calé depuis. Ça fait 3 semaines qu'on a tout calé, l'avion, l'hôtel.
Là, c'est juste l'ultime validation, en fait.
Ah, ce match-là, il est tranquille.
D'accord.
C'est pas le déplacement le plus difficile dans le sens où on a essayé de prévoir tout ce qui était prévisible, voire même imprévisible.
Ah, justement, c'est une question. Comment on gère l'imprévu? Par définition, on peut pas le gérer, mais comment on y fait face?
Déjà, on anticipe. On anticipe tout ce qui pourrait se passer et c'est pour ça que je vous parlais de la transmission d'expérience que j'ai avec Guy Genet, qui travaille à mi-temps encore comme team manager. C'est que il me fait part aussi de toutes ses émotions positives, mais également aussi des différentes tracasseries qu'il a eues pendant 25 ans. Donc voilà, ça va de l'avion qui peut pas décoller à un problème de tablette, un bus qui ne marche pas, ce genre de choses. Donc, il faut anticiper quand on réserve les hôtels qu'ils puissent savoir qu'on peut revenir à minuit parce qu'on ne peut pas décoller, parce qu'il faut avoir toujours dans son téléphone des taxis, des bus, des personnes qui peuvent vous faciliter, vous ouvrir aussi des portes. Plutôt que d'attendre une heure et demie dans un aéroport, c'est de trouver aussi un système pour pouvoir passer en 30 minutes. Et si vous n'avez pas de bus ou si vous ne pouvez pas décoller, comment on fait pour prendre un train? Comment on fait pour prendre des véhicules? On est dans un club extrêmement organisé avec aussi des personnes à l'OL Voyage qui sont capables d'être joignables 24 heures sur 24 et qui, pour tous les déplacements, sont sur le qui-vive. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. À Rennes, le week-end dernier, quand il y a des petits retards de transport ou des petits inconvénients, on sait qu'il y a toujours derrière quelqu'un pour nous épauler. Donc, voilà. Il faut essayer d'anticiper avec l'expérience tout ce qui pourrait arriver. Après, il y a toujours des nouvelles choses, mais voilà, il faut garder son sang-froid, essayer de trouver rapidement des solutions. Je pense qu'il faut aussi partager avec d'autres personnes du staff et puis essayer de faire au mieux. Et quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et voilà, on attend. Donc après,
oui, de toute façon, si vous ne pouvez pas, voilà, ils savent que vous avez tout tenté à peu près. Et donc, si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Quoi.
Malheureusement, on n'a pas la main sur tout.
Hein. Voilà, exactement. Avant-dernière question, en vous écoutant, c'est une question que je pose régulièrement à mes invités. Je leur dis quelle qualité il faut pour faire votre métier, en l'occurrence. La qualité qui saute aux yeux en vous écoutant, c'est le sens de l'organisation. C'est-à-dire qu'un team manager mal organisé ou désorganisé, ça n'existe pas.
Je ne sais pas si ça n'existe pas, mais en tout cas, effectivement, c'est...
La rigueur et l'organisation, en fait.
C'est mal embarqué. Il faut effectivement de la rigueur et de l'organisation. Il faut aussi avoir des supports écrits, un grand tableau dans son bureau pour noter, parce qu'on perd vite la tête. Quand, dans la même journée, on prépare le match, on prépare la journée d'aujourd'hui, de demain, le match dans 10 jours, le déplacement dans 15 jours, et le camp d'entraînement dans 11 mois, voire la fenêtre internationale pendant la Coupe du Monde du Qatar, dans la même journée, vous avez intérêt à noter des choses quand même. Voilà, après, il y a la passion, il y a la discrétion, il y a la capacité à travailler, ou en tout cas à être au service d'une équipe, de l'humilité, parce qu'il en faut beaucoup. Et voilà, il faut aussi de l'engagement. Pour moi, on parle très peu de ce mot, mais c'est l'engagement au quotidien. C'est quasi du 24-24 de temps en temps. Voilà, il faut beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination, de la motivation, savoir aussi pourquoi on le fait. Voilà, pas attendre beaucoup, mais voilà, quand on a la chance aussi de travailler dans ce domaine-là avec des bonnes personnes, avec aussi un staff de qualité, c'est du plaisir. Hein.
Et justement, je vais retenir aussi un mot, il faut être en capacité d'assumer une grosse charge de travail. Et en fait, cette idée de podcast m'est venue par Nicolas Jover, qui est aujourd'hui adjoint de Mikel Arteta à Arsenal, après avoir été spécialiste des coups de pied arrêtés à Manchester City, qui m'avait recommandé d'inviter un team manager. Et à l'époque, il avait eu ces mots, il avait parlé d'une énorme charge de travail pour le team manager, cette charge de travail qui incombait à cette fonction. Et effectivement, tout au long de cet entretien, on a vu que entre la relation avec la direction sportive, avec le staff technique, avec les joueurs, toute la logistique, toute l'organisation qu'il faut, l'anticipation aussi qu'il faut avoir. Alors évidemment qu'il y a plein de belles choses qui arrivent suite à ça, mais il faut aussi être en capacité de supporter une très grosse charge de travail.
Oui, parce qu'on a abordé peut-être 60% ou 70% de notre travail. On n'a pas été non plus, par faute de temps, certainement aussi de spécificités qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler, mais voilà, on a un périmètre d'action qui est énorme. Effectivement, il y a une charge de travail qui est importante. Alors, on n'est pas tout seul à gérer ça.
Bien sûr.
Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir son carnet. J'essaye d'être le plus réactif possible. Des fois, quand on est trop réactif, donc on fait des bêtises parce qu'on va trop vite. Mais voilà, je sais que les joueurs aiment bien aussi quand on est réactif derrière, parce qu'au moins, ils ont tout de suite les infos. Et puis aussi, avec le staff technique, il faut être réactif. Mais c'est vrai que la charge de travail, elle est très importante. Comme je vous le disais, on n'a pas assez de temps avec les homologues pour pouvoir se poser. Mais quand on discute avec tout le monde, on est vraiment... Moi, je dis, j'image toujours en disant que le 29 juin, je rentre dans une machine à laver et j'en ressors le 30 mai. Quoi.
Après essorage, du coup, ou avant essorage?
On essaye de ne pas être trop essoré parce que après, au niveau de la santé physique et mentale, ça, on en prend un coup. Il faut aussi, je pense que dans l'année, il faut aussi arriver à couper un ou deux jours. C'est facile à dire, mais c'est compliqué, très, très compliqué. Ça voudrait dire qu'on coupe le téléphone et... Les qualités d'un team manager, c'est d'être disponible et joignable. Et voilà, la charge de travail, en fait, il y a du travail, je pense, comme dans tous les métiers. On est sur tellement de domaines qu'effectivement, on est hyper sollicité et il faut aussi être réactif. Et puis, si on est organisé, qu'on arrive à anticiper un minimum de choses, on gagne quand même déjà pas mal de temps.
Avant de passer à la dernière question, est-ce qu'il y a un domaine que je n'ai pas évoqué, que vous voudriez évoquer, puisque vous disiez qu'on était à peu près sur 70% du travail au quotidien ou à l'année? Est-ce qu'il y a un domaine qui vous paraît essentiel et que les auditeurs doivent connaître lié à votre fonction?
Essentiel, non, on a abordé les éléments les plus importants, à savoir le lien avec la direction, avec le staff et avec les joueurs, comment finalement, qu'est-ce qui est un peu notre métier. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à parler de mon métier avec mes amis, avec ma famille, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de partager qui sont du domaine privé, et c'est aussi, j'ai l'impression aussi de me dévoiler ou de raconter en disant « je fais ça », mais dire, voilà, ça a peut-être un manque d'humilité, ouais, qui pourrait être ressenti. Donc, on a la chance de pouvoir faire énormément de choses avec eux. Voilà, les domaines... C'est juste un petit conseil que je pourrais donner, parce que j'espère que ça va donner aussi envie à des gens de se lancer dans ce métier. Moi, j'ai 47 ans, j'ai des cours d'anglais toutes les semaines. S'il y a deux choses à avoir, hors qualité humaine, c'est avoir une bonne maîtrise d'une deuxième langue et avoir une bonne connaissance du football. Parce que quand on connaît ces éléments-là, Ça permet d'anticiper pas mal de trucs. Ça permet aussi de pouvoir se faire comprendre. Et dans un métier tel que le nôtre, aujourd'hui, si on n'est pas capable de se faire comprendre, c'est très, très compliqué.
On arrive au bout de l'entretien, Julien. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines ? Est-ce que vous avez un nom en particulier à me soumettre ? Ou plus simplement, comme l'avait fait Nicolas Jauvert avec le métier de team manager, un métier à me soumettre lié au football que vous aimeriez que les auditeurs puissent découvrir, redécouvrir si on en a déjà un petit peu parlé ou approfondir.
J'ai pas écouté tous vos podcasts, vous m'excuserez.
Il n'y a pas de souci.
J'en ai écouté quand même que 3 ou 4 parce que quand vous m'avez sollicité, j'avais besoin aussi de savoir un petit peu le contenu, mais surtout aussi le ton de l'émission. Après, je pense que j'ai pas inventé l'eau chaude. Fénel de Noex me paraît être quand même une personne qui a beaucoup de choses à dire et qui mériterait de pouvoir aussi transmettre encore plus tout ce qu'il a déjà transmis au foot. Donc ça, j'aimerais beaucoup. Je pense qu'un kiné, des thérapeutes, mériterait aussi d'avoir sa place parce que ce sont des personnes qui travaillent au quotidien avec les sportifs de très haut niveau, qui ne sont pas que des masseurs, qui sont des personnes qui vont permettre la performance, qui vont permettre à un sportif de haut niveau de revenir très vite sur le terrain. C'est aussi des gens qui, en termes de psychologie, sont aussi des bienfaiteurs ou des facilitateurs d'harmonie pour le joueur. Voilà, donc je pense que j'espère avoir répondu une personne et un métier. Donc,
C'est parfait, franchement, c'est absolument parfait. Et effectivement, c'est vrai que je n'ai pas fait encore de kiné. Et effectivement, ça sera bien l'occasion aussi de montrer que l'association qui est souvent faite, le kiné est un masseur, comme vous l'avez précisé, est très loin de la vérité de cette fonction-là au quotidien. Ça fait partie de ces missions, mais c'est loin d'être la seule. Donc effectivement, et Reynald de Noex, dont j'ai eu la chance de recevoir... Bah, c'est marrant, comme quoi, des fois, il y a des associations un peu marrantes, parce que il m'avait envoyé un message. Après, il avait écouté l'épisode avec Pierre Sage de l'Olympique Lyonnais, éducateur à l'OL, pour me dire qu'il avait très apprécié l'épisode. Et c'est vrai qu'on s'était dit qu'il faudrait qu'on fasse un épisode ensemble. Donc, votre relance arrive au bon moment pour que je recontacte Reynald de Noex pour faire un épisode. Parce qu'effectivement, c'est, on va le dire très simplement, parmi les personnes qui ont le plus marqué le football français et le jeu surtout. Et ça, c'est très, très important parce que le football est un sport, est un jeu, avant même d'être un divertissement. Donc, votre proposition arrive au moment parfait.
J'espère que c'est une relance dans la verticalité, dans le jeu en mouvement pour Reynald de Noex.
C'est une passe décisive même. C'est une passe décisive en profondeur. C'est l'acte qu'il fallait pour que je relance Reynald de Noex, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup Julien Sokol pour votre disponibilité, pour tout ce temps. Et je vous souhaite évidemment une bonne fin de saison. Merci Julien.
Merci à vous.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.